heureux celui qui pleure, ils seront consolés. C'est sans doute la béatitude la plus paradoxale, parce que être heureux et pleurer en même temps. Alors bon, il y a des pleurs de joie, mais clairement dans cette béatitude, on ne parle pas des pleurs de joie. Hein. Et du coup, voilà. Est-ce que c'est une chance de pleurer ? Bon, alors en tout cas, on ne peut pas considérer ça comme un bonheur de pleurer habituellement. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'idéaliser la souffrance ou voilà, ça c'est évident. Et en même temps, on doit reconnaître que dans un certain nombre de circonstances, c'est précisément dans des moments difficiles qu'on se réveille davantage spirituellement parlant et qu'on vit des choses plus à une profondeur plus grande. Quelquefois, quand on est dans la facilité, bah du coup, c'est une joie un peu superficielle. Mais du coup, quand ça devient difficile, on doit avoir des racines un peu plus profondes parce que sinon, on ne sait pas comment tenir. Et le pape François avait une phrase très belle, je vous la donne. C'était le 2 avril 2013. Il disait « Parfois, dans notre vie, les larmes peuvent devenir comme des lunettes qui nous permettent de voir Jésus. » Des larmes qui peuvent devenir comme des lunettes qui nous permettent de voir Jésus. Voilà, alors ben, je vais essayer de vous parler de cette béatitude. Alors d'abord, comme d'habitude, je pense que je vais parler de la récompense, ils seront consolés, et puis après je vous parlerai de la première partie de la béatitude. Alors, ils seront consolés, vous êtes habitués maintenant, c'est un passif divin, hein, vous voyez ce que ça veut dire. Hein, c'est les Juifs, pour éviter de nommer Dieu, employaient une tournure passive. Mais derrière ce passif, ils entendent que c'est Dieu qui va donner la consolation. Hein, pour eux, c'est clair, nous, ils seront consolés par quoi, par qui, voilà. Mais pour les Juifs, c'est absolument clair, dans cette béatitude, c'est Dieu qui va les consoler. Jésus, c'est lui le premier paraclet. Alors, quelquefois, c'est traduit justement par consolateur. Hein, parce que justement, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, si mes souvenirs sont bons, il parle de l'envoi d'un autre paraclet, parce que le premier, c'est lui. Mais il y a un autre paraclet qui nous va, l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Hein, voilà. Alors, donc c'est Dieu qui vient nous consoler. Mais c'est pas une consolation d'ordre psychologique ou voilà, c'est une consolation d'ordre spirituel. Vous connaissez certainement le début de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. Alors, comme ça vous échappe, mais si je vais vous lire. Vous connaissez certainement ce passage, mais vous pouvez le reprendre de temps à autre, ça ne nous fait pas de mal. Donc, c'est le chapitre 1, versets 2 à 7. 3 à 7 même. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. Voilà, donc c'est Dieu qui vient donner ce réconfort. La première béatitude, vous vous rappelez, le verbe est au présent, si mes souvenirs sont bons. Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Là, dans les larmes, c'est pas au présent, c'est au futur. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et de fait, le, Voilà, c'est une promesse qui nous est faite, mais pour, sur le moment, bon, on traverse, comme le dit le Salve Regina, une vallée de larmes. Et voilà, mais donc, mais on a cette confiance de recevoir ce réconfort de la part de Dieu, où je peux vous citer le Saint-Pierre, par exemple. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Mais c'est au futur, hein, que la gloire va se révéler, ce n'est pas encore tout de suite. Ou alors, encore Saint-Pierre, vous exultez de joie même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Alors, ces épreuves vérifieront la qualité de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Hein? Voilà. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Donc il y a comme une anticipation de cette joie que nous aurons vraiment à l'avenir. Ou encore ces versets de Saint Jean, vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Enfin, je pourrais prendre beaucoup de versets de la parole de Dieu. Donc, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. C'est au futur, mais ce n'en est pas moins vrai. Alors maintenant, je vais parler un peu, ça va, je ne vous endors pas encore. Je vais vous parler des différents motifs des larmes. Alors, je vais vous donner trois motifs, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Enfin, trois sortes de larmes, plus exactement. Trois sortes de larmes. Il y a des larmes normales. Enfin, je prends les mots que je peux. Des larmes normales, des larmes mauvaises et des larmes salutaires. Normales, mauvaises, salutaires. Trois points, comme vous savez que j'aime bien. Bon alors, les larmes normales, ben c'est parce qu'on a mal, parce qu'on souffre. Ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir ces larmes-là. Hein. Mais je crois que c'est commun à tout le monde. Alors ces larmes, elles sont liées à la souffrance, à la douleur. D'abord, bien sûr, à des douleurs physiques. Il y a des douleurs liées au rejet, à la trahison, à l'incompréhension. On voit ça chez bien des personnages de la Bible. Hein. Joseph, quand il est vendu par ses frères, moi, il ne veut pas être exulté de joie à ce moment-là. Moïse, quand il a dû s'enfuir, etc. Voilà. David, à certains moments de sa vie, c'était compliqué aussi. Avec Saül au départ, et puis après, quand son fils s'est révolté contre lui, etc. Donc, voilà, mais ça, c'est des larmes normales. Quand on souffre, ben, c'est normal de pleurer, ou au moins d'avoir envie. Hein. Et c'est Benoît XVI qui disait, le pape Benoît XVI, qui disait qu'on le veuille ou non, la souffrance fera toujours partie de notre vie, parce qu'on est fini, parce qu'on est pécheur. On peut toujours essayer d'atténuer la souffrance, mais là, c'est aussi un point important, je pense, pour ces larmes normales. C'est normal qu'il y ait de la souffrance dans nos vies. Bon, on ne la recherche pas, hein, bien entendu. Mais ce qui ne serait pas normal, c'est de fuir la souffrance à tout prix. Benoît XVI a des belles pages là-dessus, dans son encyclique sur l'espérance, Spécial Vie. Dit, c'est une illusion de vouloir éradiquer la souffrance. Parce que vouloir éradiquer la souffrance, c'est vouloir aussi éradiquer les occasions de souffrir. Je prends un exemple idiot, mais enfin idiot. Vous avez quelqu'un qui est âgé chez vous, etc. Ben, c'est sûr que c'est... Ben, le soigner au jour le jour, c'est lourd, hein? Ou un enfant handicapé avec un lourd handicap, c'est lourd. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas souffrir, on élimine la cause de la souffrance ou... Alors justement, c'est normal qu'il y ait des situations qui soient difficiles dans notre vie. Mais voilà, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Donc, Benoît XVI disait encore, autre chose est de surmonter la souffrance, autre chose est de vouloir l'éliminer à tout prix. C'est important que ça soit clair dans notre esprit. Le but de notre vie, ce n'est pas de fuir la souffrance, c'est de faire le bien. C'est important que ça soit bien clair dans notre esprit. Si notre objectif principal, c'est fuir la souffrance, on fera vraiment des choses graves et des bêtises. Parce que si c'est ça notre objectif, ne pas souffrir, on jettera le bébé avec l'eau du bain pour ne pas souffrir, ça c'est clair. Mais justement, le chrétien, il sait que non, la souffrance, c'est pas, ou la fuite de la souffrance, ce n'est pas le critère ultime. Le critère ultime, c'est de faire le bien et de vouloir le bien. C'est ça le critère ultime. Voilà ce que disait encore Benoît XVI. La capacité d'accepter la souffrance par amour du bien, de la vérité et de la justice est constitutive de la mesure de l'humanité. Parce que si en définitive mon bien-être, mon intégrité sont plus importants que la vérité et la justice, alors la domination du plus fort l'emporte, alors règne la violence et le mensonge. La vérité et la justice doivent être au-dessus de mon confort et de mon intégrité physique. Autrement, ma vie elle-même devient mensonge. C'est au numéro 38 de Spe Salvi, son encyclique sur l'espérance. Voilà. Donc, des larmes normales, parce qu'on souffre, et la souffrance, elle fait partie de notre vie. Alors, plus ou moins, il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont tiré le gros lot, et puis, dans le mauvais sens du mot, parce que vraiment, ils ont beaucoup de... Puis d'autres, ça a l'air de... Ils ont l'air d'avoir une vie beaucoup plus facile, hein, mais ça... Voilà, c'est assez mystérieux. Voilà. Mais il n'y a pas que ces larmes liées à la souffrance en tant que telle. Je crois qu'il y a des larmes liées aussi à la croissance. Des larmes normales qui sont liées à la croissance. Il y a ce verset de la parole de Dieu, c'est dans un psaume, je crois. « Ce qui sème dans les larmes moissonne dans la joie ». Et c'est normal, on ne grandit pas sans larmes. Hein, quand les... Alors, je peux me tromper, hein, c'est le psaume peut-être 137, mais je peux me tromper. Hein, je vous garantis pas. Hein, je pourrais le chercher, mais là, je n'ai pas mis le... Mais voilà, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. De fait, on voit que dans notre vie, les périodes de croissance, c'est pas toujours évident. Ou les périodes de transition dans la vie familiale. Il y a des périodes de transition qui sont pas évidentes. On le voit dans la famille, dans la sainte famille de Jésus, Marie, Joseph. Quand Jésus a 12 ans et il reste au temple, ça n'a pas été évident, hein. Mais c'était normal, d'une certaine manière. Il y a des périodes de transition dans notre vie qui sont pas agréables. Mais soit on veut rester, on veut le statu quo et puis pas bouger et rester toujours. Soit on veut grandir et la croissance implique une souffrance, d'une certaine manière. Hein. En tout cas, Marie et Joseph, c'était difficile à ce moment-là. Et Benoît XVI, toujours dans son encyclique sur l'espérance, dit que voilà, si on veut aimer. Aimer, ça suppose de sortir de soi. Et sortir de soi, ça implique une souffrance. Il dit, bon, grosso modo, pour dire les choses d'une autre manière, les jeunes mariés, tout feu, tout flamme, c'est bien. Et puis au bout d'un ou deux ans, ils voient que ça coûte d'aimer l'autre, même quand il n'y a pas toujours de retour ou tout ça. C'est normal, ça fait partie de la vie. Alors après, on peut dialoguer, etc. Bien sûr qu'il faut... Mais celui qui ne voudrait pas du tout souffrir, il reste au jardin d'enfant. Mais il souffrira aussi en restant au jardin d'enfant. Hein. Ça fait partie de notre vie. La croissance implique une souffrance. Et puis, une troisième... c'est pour en trouver une troisième. Une troisième chose qui... pour les larmes normales, c'est les larmes liées à la déception. Mais peut-être d'abord à la déception sur nous-mêmes. Vous vous rappelez du prophète Élie, hein, le prophète Élie, c'était pas une mauviette, hein, il avait égorgé 450 prophètes de Baal, etc. Donc voilà, c'était pas rien. Et puis, mais après la reine Jézabel, elle n'entend pas de ce, donc elle veut le tuer. Du coup, il part au désert. Et à un certain moment, il en a vers la montagne de Dieu, mais il s'arrête en cours de route, il ne va pas jusqu'au bout, dans un premier temps au moins. Il s'arrête sous un arbuste, et puis ma vie, voilà ce qu'il dit à peu près, c'est « ma vie ne vaut pas mieux que celle de mes pères, prends ma vie ». Voilà, il n'a plus envie de vivre. Voilà. Mais c'est quelquefois, c'est au milieu de la vie. On pensait qu'on allait faire mieux que nos parents, mieux que les autres, et puis on voit que finalement, on n'est pas tellement mieux que les autres. Hein. Sur certains points, oui, sur certains points, non. Voilà. Et alors, du coup, on peut être déçu de soi-même d'abord. Ça fait partie de notre chemin de vie, qu'on soit chrétien ou pas. Hein, ça, c'est... Et d'avoir... Mais c'est une belle expérience qui nous fait sortir d'une forme de toute-puissance où on pense que... Voilà, c'est une expérience importante. C'est d'une autre manière, saint Paul, quand il prie le bon Dieu, hein, il veut que Dieu le délivre de sa faiblesse. Hein, il y a une écharpe dans sa chair. Alors il prie par trois fois, et puis Dieu ne lui répond pas. Et puis à la fin, il finit par lui répondre, non, ma puissance se déploie dans la faiblesse. Voilà. Mais ça, ça fait partie aussi de ces souffrances. On voudrait être Dieu, finalement. Et puis... on réalise qu'on n'est pas Dieu. Hein, Ou d'une autre manière encore, vous vous rappelez la réaction des disciples d'Emmaüs quand ils partent. Nous espérions que Jésus, et puis finalement il est mort. Bon, ils repartent chez eux tout déprimés. Voilà, mais voilà cette déception qui peut nous rejoindre à tel ou tel moment de notre vie, qu'on soit chrétien ou non. Alors ça, c'est des larmes normales, c'est normal à certains moments, et ça fait partie de notre itinéraire de vie. Voilà. Ça va jusque-là? Ça, c'était la première... j'ai annoncé trois parties, donc les larmes normales, que ce soit par la souffrance, par la déception, par la croissance ou la déception, hein, voilà. Maintenant, des larmes mauvaises. Alors, je vais pas être très long hein, sur ces larmes mauvaises, mais ces larmes, encore une fois, c'est être triste, c'est ni bien ni mal. Ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois sur la douceur à propos de la colère. Au point de départ, la colère, c'est une émotion qui n'est ni bonne ni mauvaise. Ça serait plutôt mauvais de ne pas avoir du tout d'émotion. Devant une injustice, si ça ne nous met pas en colère, ça, ce n'est pas normal. Après, c'est plutôt le deuxième pas. Est-ce que ma colère, j'ouvre les vannes et puis je casse tout et puis c'est complètement disproportionné et puis... Alors là, oui, carrément, c'est mal. Mais au point de départ, avoir un sentiment de colère, c'est pas mal. Devant certaines situations, j'espère qu'on a un sentiment de colère. Mais pareil pour la tristesse. C'est pas mal d'être triste. Après, entretenir sa tristesse, c'est une autre affaire. Vous voyez, les larmes qui sont mauvaises, c'est les larmes qu'on entretient. Et on se complaît un peu là-dedans, dans une forme de mélancolie, etc. Là, ça devient mauvais. Ces larmes deviennent mauvaises. Parce que finalement, on s'apitoie plus sur soi-même que sur une situation extérieure. Du coup, on commence à se recroqueviller un peu sur soi-même. Ça, c'est des larmes mauvaises. On voit que ces larmes mauvaises, c'est des larmes qui nous enferment. Y a les larmes de Judas et les larmes de Pierre. Ce n'est pas les mêmes larmes. Pierre, il pleure, et puis il regrette, il demande pardon, et puis il est reparti. Judas, il est désespéré, il va se pendre. Ça, c'est des larmes mauvaises. C'est des larmes qui n'ont pas d'espérance, c'est des larmes qui... Voilà. C'est des larmes où c'est des larmes où on se considère comme victime On a cette mentalité de victime. On voit des personnes quelquefois, et encore une fois, il ne s'agit pas de porter des jugements sur les personnes, parce que si on traversait les mêmes situations, peut-être qu'on ne ferait pas mieux. Hein, donc il ne s'agit pas de porter des jugements, mais en même temps, on voit que certaines personnes, à partir du moment où elles commencent à se complaire, à raconter toujours leurs histoires pour que les gens s'apitoient sur eux, au bout d'un moment, elles font le vide autour d'elles. Parce que bon, ça va bien 5 minutes, mais... Et il ne s'agit pas de porter des jugements sur les personnes, mais plutôt peut-être d'aider à passer un cap. Alors peut-être c'est là que j'aurais dû aborder, mais je ne vais pas tellement le faire, mais du deuil. C'est normal qu'on ait besoin de temps pour faire un deuil. Deuil, ce n'est pas simplement quand quelqu'un meurt, mais ça peut être une situation qu'on avait rêvée, puis voilà, c'est pas ça. Ça peut être beaucoup de choses, les deuils, hein. Et c'est normal d'avoir du temps. Mais en même temps, alors, c'est pas automatique, hein, ce que je vous dis. C'est important d'arriver et d'être aidé, quelquefois, à faire son deuil, comme on dit, à pouvoir pas rester dedans indéfiniment. Là encore, il ne s'agit pas de porter du jugement, parce que, voilà, on n'est pas à la place des autres, et voilà. Mais Jésus ne nous appelle pas à être larmoyants à longueur de journée. Il faut certainement on l'avait évoqué un tout petit peu la dernière fois, notamment dans la prière de Saint François de Sales à la fin, où Saint François de Sales recommandait une certaine douceur par rapport à soi-même. Pas se brutaliser aussi soi-même, hein, de pas se mettre en colère sur soi-même, etc. Voilà, donc, par rapport au deuil, c'est la même chose. Il faut une certaine douceur envers soi-même, mais pas non plus une certaine mollesse à l'égard de soi-même. Alors, trouver la bonne note, c'est pas toujours simple, mais voilà, c'est... Voilà, et donc, être triste, oui, mais de vivre indéfiniment dans la tristesse, non. Quelquefois, d'ailleurs, ça me vient à l'esprit, il y a des personnes qui se culpabiliseraient peut-être d'être heureuses alors qu'elles ont vécu un deuil. Une maman qui a perdu un enfant, elle se dit « j'ai pas le droit d'être heureuse après avoir perdu un enfant ». Si, elle a le droit d'être heureuse. Mais c'est comme si elle se culpabilisait. Non, vous voyez, quelquefois, bon, ça fonctionne on fonctionne comme on peut, hein, mais il y a des choses qui ne sont pas toujours ajustées. Alors bien sûr qu'il y a besoin d'un temps pour le deuil et ça sera toujours une souffrance. Ça, c'est pas quelque chose qu'on... Mais ça n'aide pas la personne défunte de rester dans la tristesse indéfiniment pour elle. Alors à une certaine époque, c'était assez codifié, on portait le deuil pendant un certain temps et puis après, on ne portait plus le deuil. Ça pouvait être bon d'une certaine manière pour dire il faut du temps quand même pour faire son deuil, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça serait un peu bizarre que la personne saute de joie le lendemain. Voilà. Mais en même temps, après, il faut essayer de passer à autre chose. Bon, vous voyez, ça demande un peu de doigté dans tout ça. Voilà. Mais c'est donc après les larmes normales, je tenais quand même à évoquer ces larmes mauvaises où on s'apitoie sur soi. Et ça, c'est... Jésus dit pas « bienheureux ceux qui pleurent à ceux qui s'apitoient sur eux-mêmes ». C'est pas le sens de la béatitude. Et voilà, nous arrivons aux larmes salutaires. Donc des larmes qui sont bénéfiques et qui sont plus directement l'objet de cette béatitude. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alors, c'est peut-être de ces larmes dont on peut parler, au sujet desquelles on peut parler du don des larmes. Quelquefois, on parle de ce don des larmes. Ce don des larmes, je pense essentiellement, c'est justement d'avoir un cœur sensible. C'est ça le don des larmes. Sensible à la souffrance des autres, sensible aussi à l'honneur de Dieu, on pourrait dire sensible aussi à la gravité de son propre péché. Donc je vais prendre ces trois points, je viens d'évoquer rapidement, mais voilà. C'est d'abord les larmes de repentir, des bonnes larmes, des larmes salutaires. Ah, c'est les larmes de Pierre, vous vous rappelez, le coq chante au début, « Non, non, je te suivrai partout, tout ça », et puis finalement ça ne se passe pas comme ça. Et puis, non, je ne connais pas cet homme. Non, je ne connais pas, par trois fois. Et puis, le coq chante. Et là, Pierre, il se trouve tout bête. Et désemparé aussi. Désemparé. Et il va pleurer. Il pleura amèrement, nous dit l'Évangile. Mais c'est des bonnes larmes. Justement, où on prend conscience de son péché, où on prend conscience que ce n'est pas bien ce qu'on a fait. Ça, c'est des bonnes larmes. Parce que si on ne pleure pas ce qu'on a fait de mal, c'est un peu ennuyeux. Alors, je vous cite Saint Paul, la deuxième épître aux Corinthiens, toujours, où il parlait du réconfort au début, mais cette fois-ci, c'est au chapitre 7. « Je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristé, mais parce que cette tristesse vous a conduit au repentir. » En effet, elle a été vécue selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage à cause de nous. Car une tristesse vécue selon Dieu produit un repentir qui mène au salut, sans causer de regret, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Cette tristesse, donc, c'est d'abord reconnaître son péché. Saint François d'Assise, quand il était triste, son réflexe, c'était de dire « Pourquoi je suis triste ?» Se poser la question. Si c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais il faut que j'aille demander pardon, et puis voilà. Et sinon, je demande au bon Dieu de me rendre la joie de vivre. Donc, ou Saint José, Maria de Balaguer aussi, questionner « Mais tu as plus de joie alors ?» Réfléchis s'il n'y a pas un obstacle entre Dieu et toi. Alors, il peut y avoir d'autres raisons, mais du coup, et si c'est le cas, regrette, va te confesser. Le curé d'Ars a insisté justement sur ces larmes de repentir. Et il disait que quand une maison était très sale, il ne suffisait pas de sortir toutes les ordures de la maison, il fallait encore la laver. Il dit, voilà, il ne suffit pas d'avouer ton péché, il faut aussi que tu le pleures, ton péché. Quelque part pour laver ton... C'est une belle image, je trouve, qu'il nous donne. Ou Saint Ambroise qui fait un commentaire, vous vous rappelez de ce passage, c'est dans Saint Luc au chapitre 7, où il y a une femme qui vient laver les pieds de Jésus avec ses larmes. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? C'est ainsi que cette femme dont parle l'Évangile s'est débarrassée de son péché et de la mauvaise odeur de son égarement. C'est ainsi qu'elle s'est purifiée de sa faute en lavant les pieds de Jésus avec ses larmes. Et du coup, il invite, Saint Ambroise invite aussi à pleurer nos péchés. Une petite note intéressante, je trouve, toujours à ce sujet-là, c'est Saint Bernard qui fait une réflexion sur l'ordre des béatitudes. Il dit, mais remarquez que la béatitude des larmes vient avant la béatitude de la miséricorde. Parce qu'il faut avoir d'abord pleuré sur ses propres péchés pour avoir de l'indulgence vis-à-vis des autres. Je trouve que c'est intéressant aussi de... on ne pourra pas être miséricordieux si on n'a jamais pleuré sur ses propres péchés. Voilà. Donc ça, c'était le premier type de larmes salutaires, des larmes bonnes, celles où on regrette ce qu'on a fait de mal. Un deuxième type de larmes bonnes, c'est évident, c'est des larmes de compassion. C'est Saint Paul qui dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Benoît XVI disait cette phrase, toujours dans son encyclique sur l'espérance. La mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Je vous le répète. La mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. C'est là qu'on verra si vraiment je suis humain. C'est dans mon attitude à l'égard de celui qui souffre. Est-ce que je suis humain ou pas? Ma qualité d'humanité se mesure à mon attitude vis-à-vis de ceux qui souffrent. Alors le pape François, il revient très très souvent. Okay. Par exemple, quand il commande cette béatitude, il dit « Heureux ceux qui ont la capacité de se laisser émouvoir, la capacité de sentir dans leur cœur la douleur qu'il y a dans leur vie et dans la vie des autres. » Voilà, se laisser émouvoir par la souffrance des autres. Et une icône, on pourrait dire, de cette compassion, c'est la Sainte Vierge au pied de la croix. Benoît XVI encore disait, dans une lecture divina à des prêtres, pour la lettre aux Hébreux, l'élément essentiel de notre humanité est la compassion, le fait de souffrir avec les autres. Il s'agit de la véritable humanité. Alors la compassion, on pourrait en parler un peu plus longuement. Marie, d'abord, au pied de la croix, on voit qu'elle est là. Elle ne fait pas quelque chose, elle est là. Elle est présente. Et je pense que la première chose dans la compassion, c'est être là. On n'a pas forcément grand-chose à dire. Quelquefois, on se sent très démuni. Du coup, notre tentation, c'est de... Les gens qui... On ne sait pas quoi leur dire, du coup, on ne va pas les voir parce qu'on se sent tout bête. Mais voilà, il faut accepter peut-être de se sentir tout bête et de ne pas avoir grand-chose à dire. Mais simplement d'être là avec l'autre parce qu'on l'aime. Et... Voilà. Mais je n'ai pas forcément des grands discours à faire, c'est peut-être pas ce qui est le plus opportun à ce moment-là, de toute façon. Hein. Et on voit bien, Marie, je pense que pour Jésus, c'était quelque chose de très très précieux d'avoir Marie au pied de la croix. Elle n'avait pas son manche à balai pour taper sur la tête de soldat. Ou... Voilà, c'est pas comme ça qu'elle aurait réconforté Jésus. Et pour nous, c'est quelquefois difficile de se sentir impuissant devant la souffrance de quelqu'un. Mais voilà, je suis là, pas parce que je ne peux pas faire grand-chose, mais je suis là. Et puis, du coup, ça suppose vraiment un respect devant le buisson ardent. Moïse doit enlever ses sandales, mais on pourrait dire devant la souffrance de quelqu'un, on doit y aller voilà, avec beaucoup de respect, parce que... On n'est pas à sa place. Et il faut respecter le rythme de la personne. Bon, vous voyez, c'est toujours un petit peu difficile. Quelquefois, il faut un petit peu secouer, ça peut arriver. Mais voilà, il faut, avant de peut-être secouer, il faut d'abord avoir pris du temps pour être avec la personne. C'est très délicat, hein, vous sentez, c'est... Voilà ce que disait encore Benoît XVI, toujours dans cette même encyclique. où il relevait le fait que c'était important de, pour vivre une vraie compassion, c'est nous-mêmes, peut-être dans la foi, voir une certaine signification, une certaine fécondité à cette souffrance de la personne qui est devant nous. Si on est désespéré autant que la personne, bon, on ne l'aidera peut-être pas beaucoup. Voilà donc ce que je disais Benoît XVI. La société ne peut accepter les souffrants et les soutenir dans leurs souffrances si chacun n'est pas lui-même capable de cela. Et d'autre part, chacun ne peut accepter la souffrance de l'autre si lui-même personnellement ne réussit pas à trouver un sens à la souffrance, un chemin de purification et de maturation, un chemin d'espérance. Alors, cette compassion, c'est la compassion devant la souffrance des gens, mais la compassion aussi devant le fait qu'ils se ferment à Dieu. Hein, c'est Saint Dominique, vous vous rappelez, le grand Saint Dominique. On disait que pendant la journée, c'était l'homme le plus joyeux, etc. Et la nuit, il pleurait. Que vont devenir les pécheurs? Que vont devenir les pécheurs? C'était... Voilà. Pour lui, c'est imaginer que des gens voilà, allaient être séparés de Dieu pour toujours, ça l'empêchait de dormir. Voilà. Donc, trois sortes de lames salutaires. La première, donc, c'est des lames de repentir. La deuxième, c'est des lames de compassion. Et la troisième sorte de lames salutaires, ce serait des lames devant le mal qui se déploie dans le monde, devant ça peut se rapprocher des larmes de colère, hein. Vous vous rappelez de ce passage, c'est au début de l'évangile de Saint Marc au chapitre 3 versets 1 à 5. Voilà, je vous lis le petit passage. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Alors, c'est la colère, mais en même temps, mêlée d'une tristesse, mais... Voilà. Pourquoi vous... Oui, vous voulez m'empêcher, pour ainsi dire, de faire le bien? On représente Saint François d'Assise souvent avec un mouchoir. Vous voyez ces représentations de Saint François d'Assise? Il parcourt les villes avec un mouchoir. Alors, il y a deux. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il avait une ophtalmie, etc. Donc, après son passage en Terre Sainte, il avait les yeux qui coulaient, ça c'est sûr. Mais c'est pas tellement pour ça. Si on l'est représenté comme ça, c'est qu'on dit qu'il parcourait, mais en disant, mais l'amour. Dieu, l'amour n'est pas aimé. Alors ça le désolait de percevoir combien Dieu nous aimait et combien les gens, ça leur faisait ni chaud ni froid. Et du coup, il parcourait l'amour n'est pas aimé. Alors ça, c'est cette troisième sorte de larmes, des larmes qui, devant l'indifférence, devant la cruauté, devant le qui a l'œuvre. C'est de... C'est des larmes qui sont importantes. Est-ce que vous vous rappelez au chapitre 9 du prophète Ézéchiel? Non, mais je vais commencer les choses autrement, mais j'ai déjà donné la solution. D'où vient le taux des franciscains? « du chapitre 9 d'Ézéchiel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 9 d'Ézéchiel ? Alors, je vais vous lire le petit passage. Voilà. Six hommes reçoivent la mission d'exécuter le châtiment de Jérusalem, de ce pays coupable de crimes sanglants, de cette ville emplie de violence. Mais auparavant, un homme vêtu de lin doit dessiner un tau, une forme de croix, sur le front de ceux qui gémissent et qui pleurent sur toutes les abominations qu'on y commet. Voilà. Ce qu'on va marquer, ce qui fera la distinction entre les gens, est-ce qu'ils seront sauvés ou pas, c'est ceux qui pleurent sur le mal, qui ne se font pas une raison du mal, qui disent non, c'est pas normal de faire des choses comme ça, et qui se désolent du mal. Et alors c'est en lien notamment avec ce passage de la Bible, pas seulement, mais que saint François a choisi le tau comme sigle, pour ainsi dire, des franciscains. D'ailleurs, il était insupportable, saint François d'Assise, il faisait des graffitis avec le tau. Vous le voyez dans une fenêtre à Fonte Colombo, il avait fait un graffiti sur l'embrasure de la fenêtre, comme ça. Mais il aimait beaucoup ce signe du tau. Mais avec ce sens très précis, ceux qui ne sont pas insensibles au mal dans le monde, ils ne peuvent pas tout, forcément faire quelque chose, mais ils gémissent, ils pleurent sur toutes les abominations qu'on y commet. Je vous lis le pape François. C'est assez récent, c'est le 29 septembre 2019. Comme chrétiens, nous ne pouvons pas être indifférents face au drame des anciennes et des nouvelles pauvretés, des solitudes les plus sombres, du mépris et de la discrimination de ceux qui n'appartiennent pas à notre groupe. Nous ne pouvons pas demeurer insensibles, le cœur anesthésié, face à la misère de tant d'innocents. Nous ne pouvons pas ne pas pleurer. Nous ne pouvons pas ne pas réagir. Demandons au Seigneur la grâce de pleurer et de pleurs qui convertissent le cœur de ses péchés. Cette troisième sorte de larmes, hein, les larmes de repentir, les larmes de compassion et puis les larmes de désolation devant le mal, on pourrait dire. Alors cette troisième sorte aussi me fait penser à un passage de... Vous vous rappelez la veuve qui donne ses deux piécettes. Bon, apparemment, ce n'est pas grand-chose. Mais quelquefois, peut-être nos larmes peuvent être un peu du même ordre ou des choses que... Voilà, qui sont difficiles. Bon, on l'offre à Jésus pour qu'il puisse s'en servir d'une façon un peu mystérieuse. Alors, on ne révolutionne pas le monde comme elle ne reconstruisait pas le temple avec ses deux piécettes, mais c'est notre contribution. J'aime bien, et il y a quelque chose, dans ce qu'elle donne, il y a beaucoup de gratuité, hein, parce que finalement, ce n'est pas grand-chose, économiquement parlant, mais qui a vraiment du sens. Et alors, je pourrais peut-être terminer avec les larmes de Marie. Parce que Marie a eu diverses occasions pour pleurer. Ça n'a pas commencé le jour de la croix, mais il y a eu différents moments difficiles. Mais on pense notamment au moment quand Jésus est perdu et retrouvé, hein, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Mais a fortiori le moment de la croix. Et Marie s'est présentée à plusieurs reprises avec des larmes. Vous connaissez peut-être des sanctuaires. Il y a un sanctuaire notamment en Sicile, à Syracuse. Alors c'était en 1953, je crois. Et voilà ce que disait Jean-Paul II des larmes de Marie. Alors, c'est un sanctuaire qui a été reconnu par l'Église, hein, ce sanctuaire. Il y a d'autres lieux aussi, mais qui n'ont pas forcément été reconnus, voilà. Mais celui-ci a été reconnu par l'Église. Ces larmes sont tellement mystérieuses. Elles parlent de la douleur, elles parlent de douleur et de tendresse, de consolation et de miséricorde divine. Elles sont le signe d'une présence maternelle et un appel à se convertir à Dieu, en abandonnant la voie du mal pour suivre fidèlement Jésus-Christ. Derrière, vous pouvez penser aux larmes de Sainte Monique, hein, qui ont été exaucées, hein, pour son fils Augustin. Hein, ça fait partie des larmes de la troisième catégorie, si je peux. Ah oui, oui, oh, mais je vais vous en dire un mot. Alors, douce Madone des larmes, nous te présentons l'Église et le monde entier. Regarde ceux qui ont le plus besoin de pardon et de réconciliation. Apporte la concorde dans les familles et la paix entre les peuples. Essuie les larmes que la haine et la violence provoquent dans de nombreuses régions du monde, spécialement au Moyen-Orient et sur le continent africain. Que tes pleurs, ô mère, soient un gage de conversion et de paix pour tous tes enfants. On voit ces larmes qui sont aussi un appel à la conversion. Alors, effectivement, notre fondateur a aussi vu la Sainte Vierge pleurer. Alors, l'Église ne s'est pas prononcée, hein, sur ce phénomène. C'était juste avant de fonder la communauté. Et il va pour fonder la communauté. Et puis, il est avec deux jeunes. Et il y en a un qui voit la Vierge pleurer. Il y avait une statue, voilà. Et en s'approchant, le père Lumière regarde s'il a... Il ne voyait pas très clair, mais du coup... Et il voit la Sainte Vierge entre la statue et lui. Et du coup, il voit qu'elle était très triste. Bon, les débuts de la communauté, pas seulement les débuts en plus, étaient un peu compliqués. Voilà, mais on voit ces pleurs de Marie. Alors, pour aller jusqu'au bout, la statue devant laquelle habituellement on termine le chapelet, hein, c'est une dame qui a fait sculpté cette statue au moment de l'année mariale en 1987. Et elle arrivait au niveau du visage, il y avait un coquillage. Alors, elle ne savait pas quoi faire. Si je donne un coup dessus, je vais faire un trou, voilà. Et alors, du coup, elle a laissé, elle a demandé à quelqu'un de sa famille qui connaissait un peu mieux le père Lamy, elle dit « Ah, mais oui, mais c'est normal !» Parce que le père Lamy a vu Marie avec des larmes. Donc, il y a une larme aussi sur la statue. Voilà. 1987. Alors, pour la statue. Oui, 19... Non, non, non. Pour la statue. Mais... Voilà, alors ces larmes qui sont, on voit quelquefois, on touche plus les cœurs par les larmes que par la violence. Voilà. Je parle à des femmes, alors elles savent y faire. Voilà. Vous avez peut-être des questions, j'étais un peu plus court que la dernière fois. Oui, je pense qu'à différents moments dans l'Évangile, on voit que, tout à l'heure on parlait des larmes de croissance, je pense que, clairement, Jésus, son but, ce n'est pas de faire de la peine à la Sainte Vierge, c'est ça, pas ça son but, c'est évident. Mais en même temps, à certains moments, il met une distance, une forme de distance qu'on a quelquefois du mal à comprendre, y compris à Cana. Qu'y a-t-il entre toi et moi ? On dit, tu exagères quand même un peu. C'est elle qui t'a mis au monde, etc. Mais si on les lit à un deuxième degré, au contraire, c'est un grand éloge de Marie. Mais au deuxième degré, mais au premier degré, il faut d'abord ravaler sa salive. Ravaler sa susceptibilité, etc. Mais c'est vrai que... oui, il y a des passages qui ne sont pas forcément si évidents. une femme qui dit « Ah, heureuse la femme qui t'a nourri », etc. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Mais quelque part, c'était un grand éloge de Marie, parce que elle est, comme disent les pères de l'Église, elle est plus mère encore en accueillant sa parole qu'en lui, plus proche de lui encore.
Elle a dû pleurer aussi beaucoup devant l'ingratitude des hommes.
Je pense que quand elle a entendu « Non, pas lui, Barabbas, libre !» c'était pas facile à entendre. Ouais, c'était même incompréhensible d'une certaine manière. Quelques jours avant, au rameau, il est acclamé, et puis voilà, un petit retour d'opinion, et puis voilà, on le... Oui. Mais dans la béatitude, je pense, quand Jésus parle, puisque justement il dit « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés », c'est des larmes qui appellent un réconfort. C'est vrai qu'on peut avoir des larmes de joie, telle ou telle reprise, mais dans la béatitude, au point de départ, ce n'est pas des larmes de joie dont il s'agit, c'est des larmes dont on a besoin d'être consolé.
Et à Sarrette, la Vierge ne pleurait pas ?
Aussi, dans un certain nombre de lieux, oui, oui. Oui, oui. Je ne suis pas un expert de toutes les apparitions mariales, mais dans différents lieux, Marie se montre très triste. Oui. Alors, il y en a, après, il y en a qui sont reconnus, il y en a qui ne sont pas reconnus, il y en a, c'est même des larmes de sang à Civitavecchia, pas très très loin de Rome. Mais voilà, heureux ceux qui pleurent. Comment nos larmes aussi peuvent être bénéfiques, salutaires, comment nos larmes peuvent être salutaires et servir pour le royaume.